Les grandes voix d'Europe 1.
10h, 11h, Pierre de Villeneuve.
Bonjour, bonjour à tous, bienvenue aux grandes voix. Catherine Ney, Michel Cotta, Charles Villeneuve et Gérard Carrérou.
Bonjour Pierre.
Bonjour.
Au programme de votre émission ce samedi, la crise des carburants bat son plein et commence à pomper l'air des automobilistes. Plein à 3 euros le litre dans certaines stations, agression de clients. Que fait le gouvernement? A-t-il trop tardé? Que fait la CGT? Pourquoi poursuivre la grève alors qu'un accord a été trouvé? Grève générale, grande mobilisation attendue mardi prochain. Le pays va-t-il se retrouver bloqué une nouvelle fois? Crise aussi à l'Assemblée nationale face à une opposition qui se ligue contre la majorité. Et le projet de loi de finances actuellement en débat, la petite musique du 49-3 se fait de plus en plus clairement entendre. La menace de la dissolution peut-elle aussi revenir sur la table? Et puis l'Ukraine, 234e jour de combat et un nouveau général plus brutal pour remuscler l'opération spéciale de Vladimir Poutine en Ukraine. Que penser aussi des déclarations d'Elon Musk prononcées visiblement à l'issue d'une conversation avec le chef du Kremlin? Je n'ai plus les moyens de financer l'internet civil ukrainien qui accessoirement sert aussi à guider certaines armes dans le pays. Vous avez le programme, le débat des grandes voix, c'est parti. 28,5%, c'était le chiffre hier soir, 28,5%, soyons précis, 28,5% de stations où il manque au moins un carburant. C'est un léger mieux, je mets ça évidemment avec des énormes guillemets pour les automobilistes qui encore ce week-end pour certains seront privés de grands déplacements. La CFDT dit OK à l'augmentation des 5% et à la prime située entre 3 et 6 000 euros. La CFE-CGC dit même « on ne peut pas laisser la France comme ça », tandis que la CGT dit « 5%, ce n'est pas 10%. » Elle reste mobilisée à tel point que revient cette question, la CGT, et en particulier les syndicats en général, sont-ils encore représentatifs de la France? Gérard Carrérou.
Ils sont représentatifs d'une petite minorité des salariés français. Quoi. On le sait, on connaît les chiffres, c'est 10% à peu près, c'est même peut-être moins que ça maintenant. C'est moins que ça, c'est 7%.
Oui, mais est-ce que ça veut dire que 7% de Français syndiqués, c'est représentatif?
Oui, non, mais une chose, ils sont représentatifs dans ça. Alors, c'est très nuancé ce qu'il faut regarder. Il faut regarder, par exemple, puisque c'est la CGT qui est au centre du... débat, des critiques ou des approbations, la CGT, elle a ses points forts, mais depuis 50 ans ou depuis 40 ans, depuis qu'elle était la courroie de transmission du Parti communiste stalinien, parce que c'est ce qu'elle a été, son rôle historique, c'est ça, d'être la courroie de transmission ouvrière du Parti communiste stalinien. Elle a un peu changé, bon, parce qu'il faut bien changer, le temps passe, comme on dit, elle a un peu changé, mais elle a gardé ses fondamentaux. Et elle a gardé aussi ses fondamentaux dans ce domaine de l'action. Elle s'est bien implantée là où on peut faire beaucoup de mal à la société moderne.
Elle a privé de liberté.
Elle a des implantations fortes dans un certain nombre de secteurs publics. Ça date depuis la libération de la France.
Et notamment les transports.
Les transports, et puis le nucléaire, elle s'est mise dans le nucléaire. C'est pour ça qu'il faut faire attention toujours au nucléaire. L'énergie en général. Donc voilà, elle a ses bastions. Et elle sait qu'avec ses... Et on le dit depuis Chabandel, je me souviens, depuis Chabandelma, il y a 50 ans, on dit la CGT, effectivement, elle peut paralyser le pays avec quelques dizaines d'individus, etc. Donc, il y a la CGT. Mais moi, je ne veux pas faire haro sur la CGT. Contraire, parce que pour ça, vous me posez la question sur la CGT, je vous réponds. Mais je veux simplement dire, face à cette CGT qui est ce qu'elle est, et qui est quelque part fidèle à ses origines, il y a quand même l'incompétence, l'amateurisme absolu d'un président qui a été fraîchement quand même réélu, et d'une nouvelle première ministre, et d'un gouvernement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu ni l'anticipation nécessaire à des gouvernements. Il y a eu une politique du déni, une politique qu'on appelle vulgairement la politique de l'autruche. Et puis aujourd'hui, il y a eu des réactions. On a l'impression qu'ils se sont demandé pendant un certain nombre de jours qu'est-ce qu'il fallait faire, est-ce qu'il faut bouger un peu. Bon. Donc, incompétence, amateurisme, on l'avait déjà dit dans le premier mandat de Macron. Là, c'est un grand... Il y a eu les gilets jaunes, maintenant il y a ce conflit, je ne sais pas comment... Voilà.
Michel Cotta.
Alors, quelques petites nuances quand même. La première, alors
nuance,
je pense sur la CGT.
Je suis très nuancé, Michel.
Sur la CGT, alors.
Et puis, il n'y a rien de vulgaire dans une autruche.
Il faut expliquer quand même l'état de la CGT aujourd'hui. Alors, j'ai un peu regardé parce que ce que disent les uns et les autres, mais je crois qu'ils ont... Le résumé peut être bon. D'abord, la CGT a, comme d'habitude, un congrès prévu en mars dans lequel... Il entend bien avancer, réavancer son,
Philippe Martinez veut placer Marie-Louise.
La CGT veut remplacer la CFDT, qui, je vous rappelle, est en numéro 1. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'au fond, on parlait effectivement du Parti communiste et de la courroie du Parti communiste. Alors, la CGT, effectivement, a bien été ça. Sauf que le Parti communiste, aujourd'hui, n'existe plus. N'existe plus. Il y a beaucoup de tendances. Et on voit les tendances, hein, on voit... à la CGT, il y a des trotskistes, alors que je vous rappelle que généralement les trotskistes étaient à FO. Et il n'y a pas seulement les trotskistes, il y a les trois tendances de trotskistes, dont naturellement le fameux Lambert. Il y a les anciens communistes autour de Fabien Roussel qui seraient assez contents de mettre un terme à tout ça et de rejoindre après une position commune. Et enfin, les mélanchonistes qui, eux, font de l'entrisme autant qu'ils peuvent dans la CGT et qui, effectivement, tout ça va dans le sens de la radicalisation d'une CGT. Et puis deuxièmement, sur le rôle de l'État...
Du gouvernement.
Il y a quand même l'entreprise. Mmh. Et moi, je trouve que l'entreprise, dans les conditions où on est, aurait pu anticiper...
Vous parlez
de Total. Oui, aurait pu anticiper. Mmh. Les réunions ont été prévues pour novembre. Ils les ont avancées en octobre. Peut-être que les patrons...
C'était prévu en janvier.
Peut-être que les patrons auraient pu faire, dans l'état où on est, et dans effectivement la controverse sur les super profits, auraient pu faire une ouverture plus récente. Alors après, il y a effectivement le gouvernement.
Moi, je suis d'accord. Je suis d'accord avec ça. Je pense que ce conflit est né de l'incapacité de Total à prendre la mesure des choses et à considérer que la répartition des richesses et des bénéfices, si vous voulez, était un problème qui pouvait attendre alors qu'il fallait le traiter sans délai. Et le deuxième point. Aussi, et là je suis d'accord avec aussi Gérard, c'est que le gouvernement a considéré que c'était indifférent d'ordre interne à l'entreprise et n'a pas voulu voir ou pas su le caractère stratégique du sujet. Et la CGT s'est donc engouffrée dans la brèche avec maintenant la tactique de la convergence des luttes, c'est-à-dire étendre le conflit à toutes les catégories socio-professionnelles.
Catherine Ney.
Oui, enfin, la CGT, vous voyez, il y a plusieurs tendances de rouge à la CGT. Bon, ce qui a déclenché chez Total, ce qui a permis de déclencher, c'est le mot super profit. Mais la CGT de Total fait aussi de la politique, parce qu'elle est beaucoup plus radicale que ne l'est le secrétaire Philippe Martinez, qui est obligé de les suivre. Mais regardez, par exemple, vous avez cité tout à l'heure l'EDF. Bon, bien, c'est vrai que la direction d'EDF, et là, il n'y a pas de super profit, croyez-moi, eh bien, négocie depuis très longtemps avec la CGT, qui, elle, est prête à signer les accords d'augmentation de salaire et tout ça, parce qu'elle est plutôt tendance Fabien Roussel, voyez. Et alors que ceux qui sont les plus réticents à signer à EDF, c'est la CGC, qui est un syndicat qui monte,
oui, donc
qui est presque
l'inverse.
À 30%,
d'accord.
Parce qu'entre eux, ils trouvent qu'on fait trop d'efforts pour les bas salaires, voyez. Donc, c'est compliqué de... Bon, mais je crois que
On ne peut pas généraliser,
bon, mais c'est vrai que ça tombe bien aussi, c'est que là, c'est, bien sûr, il fallait demander des augmentations de salaire, que sans doute la direction de Total a tardé, mais aussi il faut voir que c'est politique, c'est la CGT radicale de Total qui veut peser au Congrès, au prochain Congrès.
Alors, et d'ailleurs, comme mes camarades ont dit excellemment, et je ne suis pas étonné qu'ils l'aient dit excellemment, je reprends, il y a effectivement dans ce conflit...
Il y a du cirage dans l'air.
Non, c'est la réalité des choses. Il y a les responsabilités de Total, vous les avez soulignées. Il y a les responsabilités de la CGT, on les a soulignées. Il y a les responsabilités assez importantes quand même de l'exécutif, on les a soulignées. Mais je dirais d'une phrase au-dessus de tout ça, j'ai entendu la phrase la plus intelligente, je dirais oui, c'est quelqu'un avec qui je ne suis pas particulièrement ni ami ni sympathisant, c'est Julien Drey qui l'a prononcé. Julien Drey qui est un ancien trotskiste, qui est un ancien mitterrandiste.
Collectionneur de montres de
luxe. On le connaît. Et ben, Julien Drey a dit, je le cite là entre guillemets, « on paye une élection présidentielle qui n'a pas posé les bonnes questions » notamment le problème social. Et moi, j'ajouterais, je ne suis pas Julien Drey, mais j'ajouterais à ce qu'il a dit que je partage, et j'ajouterais aussi l'immigration et la sécurité. On recueille là, effectivement, parce que tout le monde savait qu'il y avait des problèmes avec la guerre, notamment avec la guerre, les sanctions, l'inflation. Les gens ne peuvent pas accepter de perdre 5% de leur pouvoir d'achat. Donc on savait qu'il y avait un problème social et il n'a pas du tout été dans la campagne, ou à peine, avec Marine Le Pen un peu, mais il n'a pas été beaucoup.
Charles, voilà.
Mais moi je trouve ce qu'il y a de je dirais, vraiment très intéressant sur le plan négatif, malheureusement, c'est que aussi bien le pouvoir que la direction de Total n'ont pas vu la dimension politique et sociale stratégique de ce conflit. Parce que ce conflit révèle quoi ? Il révèle, il met sur le devant de la scène les différences, l'écart de richesse de plus en plus considérable entre le capital et le travail, entre les actionnaires et les salariés, et entre les élites et le peuple. Et en France, ça ne cesse de s'accroître, et ça ne cessera de toute façon de provoquer des conflits.
D'ailleurs, comme tu le faisais remarquer tout à l'heure, cette grève qui prise de carburant, des gens qui n'ont pas d'argent, qui ne peuvent pas travailler, eh bien, il y a à Paris un moyen d'acheter de l'essence qui vient de Belgique et qui coûte 4 euros ou 5 euros le litre. Évidemment, ça favorise les riches.
Et puis, je trouve aussi qu'on n'insiste pas assez sur la CFDT, quand même. Parce qu'après tout, elle existe. C'est elle qui, dans beaucoup de raffinerie, en tout cas, puisque dans ce secteur-là, effectivement, elle est tout à fait puissante, mais moins que la CGT. Et au fond, c'est quand même elle, la CFDT, qui a obtenu un certain nombre de petits accords qui ont laissé le filet d'essence repartir. Alors, c'est vrai que si on parle de CFDT, de CGT, il faut aussi parler de CFDT.
On parle de tout ça juste après une première pause. Les Grandes Voix reviennent, à tout de suite. Avec Catherine Ney, Michel Cotta, Charles Villeneuve et Gérard Carrérou. La crise, c'est pas fini. La suite, c'est demain dimanche avec la NUPES, Jean-Luc Mélenchon, la vie chère, l'inaction climatique, des personnalités comme Annie Ernaux, le prix Nobel de littérature, certaines associations, étudiantes notamment. Mardi, c'est mardi noir, SNCF, RATP, alors que les stations ne seront pas encore ravitaillées. Que va-t-il se passer maintenant, Catherine Ney ?
Si l'on en croit le président, il l'a dit à la télévision, tout va rentrer à la normale la semaine prochaine. Alors la semaine prochaine, quand ? En tous les cas, peut-être après mardi, peut-être. Mais tout va dépendre de ce combat de coq qui existe en ce moment entre la NUPES et la CGT. Dimanche, il y a une grande manifestation de la NUPES, où il y a d'ailleurs il y a la gauche qui va venir, même des communistes, sauf que Fabien Roussel s'est porté pâle. C'est un mouvement qui est très souligné, applaudi par Madame Ernaux, nouveau prix Nobel, voyez, bon. Et la manif, c'est contre la vie chère et contre le dérèglement climatique. Oui, c'est assez vaste. Oui, bon. Oui. Tandis que la CGT, elle est plus pointue. Elle dit que c'est pour l'augmentation des salaires. Vous voyez, c'est quand même plus... Bon. Et en tous les cas, au départ, M. Martinez demandait une grève, pas une grève générale, mais une grève d'un jour, une grève nationale. Sauf que la CGT Total, elle, demande la grève générale. Mmh. Une grève générale, est-ce que c'est une grève générale d'un jour ou de plusieurs jours ? Et comment est-ce qu'il va y avoir, derrière cette manif de la CGT, une grande demande de grève générale pour poursuivre ? Ça, on ne le sait pas. Tout va dépendre un peu. Les deux événements sont liés.
Ça peut être les grèves de 95, quoi.
Ça, c'est l'espoir de la CGT.
C'est l'espoir de la CGT.
Michel Cotta.
Et avec quand même ce problème, c'est que vous vous rappelez que la grande grève des cheminots, justement, de 95. Après cette grande grève, Chirac a abandonné tout espoir de réforme. Il n'a plus jamais. Alors, le problème est
effectivement
ça.
Et c'est devenu un roi fainéant.
Voilà, enfin, je ne dirais pas ça, parce que
non, mais ça,
chacun fait ce qu'il peut.
Ça s'entendait tellement que...
Ça s'entendait par quelqu'un qui lui a succédé, évidemment. Donc, on peut dire que c'est un argument. Mais on peut se demander des choses, d'autant plus qu'avec, par exemple, les 35 heures, il a fallu, donc, sous Jospin, il a fallu 3 présidents de la République pour retrouver un peu le sens de la compétitivité. Alors aujourd'hui, le risque est quand même de même nature. Ils ont un peu, après, aménagé.
Le mal était fait, enfin, bon, l'industrie est morte. Hein.
En tout cas, le problème est de savoir une grande grève ce mois-ci, cette semaine-ci, en pleine histoire d'Ukraine, où quand même on est tous embringués dans des problèmes et dans des incertitudes et dans des peurs quand même. Moi, je ne suis pas sûre quand même que ce sera une grande grève, parce que la personnalité de Jean-Luc Mélenchon est beaucoup plus atteinte, en tout cas, qu'il ne le croit lui-même, est beaucoup plus atteinte. Donc, c'est peut-être effectivement quelque chose qui donnera l'avantage à la CFD, à la CGT, qui paraît, elle, beaucoup plus unie et beaucoup plus en pointe.
Gérard Carrérou.
Je ne sais pas ce que ce sera, parce qu'après tout, il y a beaucoup de choses qui peuvent arriver dès dimanche et dès mardi. Mais ce que je sais, c'est que je sens que ça ne sera pas exactement ce qu'on a connu précédemment. Ça ne sera pas le grand mouvement de 1936. Probablement pas. Ça ne sera
là,
pas.
Tu regardes dans le rétroviseur. Non, mais ça ne sera pas.
Non, mais attention, je prends les grandes crises. Je prends les grandes crises et j'essaye d'être court.
Oui, mais oui.
Donc, ça ne sera pas mai 68. Ça ne sera pas mai 68. Pour les raisons évidentes, c'était une révolution sur les sociétés.
Oui,
c'est
oui,
pas
d'accord.
Une révolution.
Mais posez votre question, monsieur.
Et ça ne sera pas non plus, contrairement à ce qui a été dit précédemment, là pour le coup, je ne suis pas d'accord, ça ne sera pas 95. On a tous vécu 95, et beaucoup de Français avec nous. Oui. Mais on avait d'ailleurs
j'ai
inventé.
Pas dit que c'était la même
c'était
chose,
la grève par procuration. Là, il n'y a pas pour l'instant la grève. Mais ce qu'il peut y avoir, ça ressemblera plus à une première confrontation entre ces deux France dont on débat à longueur d'essais politiques, c'est-à-dire la France d'en haut, la France d'en bas, la France des centres-villes. On le voit à toutes les élections, la France des villes et des centres-villes et la France de la périphérie. Aujourd'hui, ceux qui souffrent le plus de l'essence, c'est les gens qui vivent à la campagne, ceux qui vivent à 40, 50, 60 kilomètres des grandes villes. Ouais. C'est pas les gens de Paris, de Bordeaux, ou de, un peu plus peut-être, mais en tout cas
Bordeaux,
peu.
Plus.
Ils ont des moyens de transport, ils ont des trams, ils ont des moyens de transport. Les gens qui vivent, moi j'ai eu à un moment donné une maison à la campagne, il n'y a pas de moyens de transport là. Si tu n'as pas ta bagnole, comment tu fais ?
Ça charge encore plus la CGT.
Finalement, tout ce que viennent d'expliquer mes camarades, c'est que c'est un conflit qui touche à la vie quotidienne des Français, quels qu'ils soient, qu'ils soient à la campagne, qu'ils soient dans les villes moyennes ou dans les grandes villes comme ici à Paris. Bon. Et donc, conflit d'intérêt général. Et dès lors, le gouvernement doit, à mon avis, s'emparer tout de suite du sujet, convoquer à Bercy les dirigeants de Total et les syndicats et les mettre autour d'une table. Ce n'est pas au président de la République d'être en première ligne sur ce sujet, dans ce conflit. C'est à la première ministre, on demande ce qu'elle fout. Non mais c'est vrai. Où est-elle ?
Elle
où est le ministre
de trois jours,
oui.
Si tu veux.
Le ministre de
avec
l'économie.
15
avec 15
non,
ministres.
Qu'elle,
oui,
qu'elle prenne ça en main, avec, assistée par le ministre de l'économie, par le ministre du Travail et des Affaires sociales.
N'oublions pas Grenelle, Charles. Grenelle, c'était Pompidou, premier ministre du général de Gaulle, entouré d'un certain nombre de ministres.
Est-ce que ce gouvernement
n'est pas là ?
Quand on arrive à ce niveau,
est-ce que ce gouvernement n'a pas tellement l'habitude d'avoir un président qui se met en avant que finalement, on lui laisse la place et on attend qu'il réagisse.
Finalement, là, il n'a pas une place.
Vu qu'on parlait d'Elisabeth Borne.
Non, mais là, dans cette affaire, d'ailleurs, Gérard vient de le rappeler, les accords de Grenelle, celui qui a coacher complètement les accords de Grenelle, c'est le premier ministre du général de Gaulle, c'est-à-dire Pompidou à l'époque. Et là, Elisabeth Borne doit être en première ligne, assistée de tous les ministres que je viens de citer. C'est évident, ça me paraît évident. Ils n'ont pas voulu voir, de toute façon, que c'était stratégique, cette question. À partir du moment où ça touche au carburant, c'est stratégique.
Et ça touche aussi à la politique, et à la politique intergouvernementale.
C'est social et politique.
La politique intergouvernementale, on sait très bien qu'Elisabeth Borne était favorable à une sorte de taxation des super-profits. Et d'ailleurs, on reviendra sur le vote à l'Assemblée nationale, mais il y a quelqu'un de très proche d'elle qui a voté ça. Et on sait très bien que Bruno Le Maire était contre cette solution et a tout fait. Donc là, il y avait une vraie divergence gouvernementale qui tombait sur le fond du problème.
Et ça nous fait un bon teaser pour la suite. A tout de suite avec les grandes voix.
Europe 1, Pierre de Villeneuve.
Avec Michel Cotta, Catherine Ney, Charles Villeneuve et Gérard Carrérou à l'Assemblée, même topo, budget, assurance chômage, retraite, pas un texte ne suscite le consensus des députés, au contraire on s'écharpe et pire on assiste à des alliances inédites. NUPES plus LR plus MoDem, ça c'est la glace à trois boules, ou NUPES plus LR avec abstention d'Horizon, ça c'est la glace deux boules avec Chantilly, bref à la buvette de l'Assemblée ça fait causer, mais en attendant la majorité en prend un coup, Gérard Carrérou.
Oui, six mois après les élections législatives, où on a vu l'arrivée quand même en force du Front National, du Rassemblement National d'une part et de la NUPES de l'autre, on s'aperçoit qu'effectivement, on ne s'était pas vraiment encore aperçu qu'il n'y avait pas de majorité. Mais là, on s'en aperçoit d'autant plus que... Dans cette majorité qui n'en est plus
majorité
une,
absolue.
Dans cette majorité relative qui est celle du président de la République, on s'aperçoit qu'il y a déjà des frondeurs. Pour Hollande, je me souviens qu'il avait fallu attendre quand même. Michel, tu te souviens?
Ils ont été presque tous nommés étaient nommés par Martine Aubry.
En tout cas, ça vient très vite. On a déjà eu 19 rondeurs, ce qui est quand même pas mal. Et on a surtout un phénomène qu'on va sentir maintenant tous les jours pendant les 4 ans qui viennent, c'est que la campagne présidentielle pour la prochaine élection présidentielle a commencé. Nous avons déjà les candidats qui ont une politique, non pas d'homme politique ou d'homme d'État, mais de candidats. Et on peut mettre dans ce registre-là le maire du Havre, Édouard Philippe. On peut mettre dans ce registre-là Darmanin, le ministre de l'Intérieur. Le ministre de Bercy, c'est-à-dire le maire. Et on peut rajouter maintenant Bayrou, qui a été trois fois candidat à la présidentielle et qui a déjà laissé pointer le bout de l'oreille.
Quand on aime, on ne compte pas.
Donc on est déjà dans une campagne pré-présidentielle à plus de 4 ans.
C'est quasiment un système américain.
Ben c'est quasiment, oui, c'est encore pire oui, presque qu'un système américain. Les mid-terms, c'est à la moitié. Là, on n'est pas à la moitié, on n'est même pas au quart.
En fait, il me semble que beaucoup de choses tournent autour de la taxation des super profits, de la taxation des super dividendes. Et là, on voit bien que les gens sont divisés à l'intérieur du gouvernement. Encore une fois, c'est pas un hasard. C'est quelqu'un de très proche d'Elisabeth Borne. Elle propose que la flat tax soit enlevée pour les super profits. C'est pas un hasard. Donc il y a vraiment en Europe, après tout, on taxe les super profits. Nous sommes par rapport à ça.
Vous voulez dire que si ça avait été un autre texte, il y aurait peut-être pas eu cette fronde là.
Oui, je pense que si ça avait été si on avait davantage collé à l'Europe sur la rémunération des grands groupes et surtout des super profits qui ont quand même été formidables. Alors, il faut dire que les entreprises disent mais nous on a fait des restrictions à la pompe, on a enlevé 30 centimes à la pompe
et ça vaut à tout le monde, c'est un cadeau
qui profite à tout le monde. Et malgré ça, ça n'a pas été assez convaincant. En tout cas, pour résoudre le problème à l'intérieur du gouvernement.
Catherine. Charles.
Non, il y a deux choses dans cette affaire. Il y a d'abord le monde à l'envers, parce que toute l'Europe, même libérale, vote les super taxes sur les super profits, ou les taxes sur les super profits. Toute l'Europe, et notamment. Et ce qui est très étonnant dans cette affaire, c'est que les Républicains, qui sont les héritiers aussi du RPR, c'est-à-dire des gaullistes, ont toujours taxé les gros. Toujours. Mmh. Il y a une continuité là-dessus. Mmh. Bon, et de la même manière, mais en même temps, il faut distinguer le rôle des Républicains dans cette affaire. Parce que les Républicains, normalement, enfin, d'après toutes les analyses, rappelons-nous, Gérard, Catherine, Michel, qu'avant même l'élection présidentielle, on se disait que après les législatives, on se disait qu'ils seront obligés de faire l'appoint avec la majorité relative.
Ça, c'était le calcul de Macron.
Oui, mais en réalité, les Républicains ont deux éléments forts de ce qu'il leur reste de leur identité, c'est-à-dire la maîtrise des dépenses publiques et le régalien, la sécurité et l'immigration. Ils ne vont pas donner quitus au gouvernement de sa gestion budgétaire et de ses finances publiques, sinon il risque la disparition complète. Il risque de couler. Et c'est la raison pour laquelle, sauf sur la réforme des retraites, qu'ils vont voter, à mon avis, parce qu'ils ont toujours dit qu'ils étaient pour un âge de la retraite
au-delà des
62
ans.
Et donc, ils ne pourront pas faire autrement. Mais en dehors de ça, ils jouent leur existence dans cette affaire.
Mais est-ce que la réforme des retraites, on n'en a pas parlé, mais est-ce qu'elle peut être votée dans un contexte, on ne sait pas ce qui va être le contexte dans 15 jours, mais on peut imaginer, il y a quand même une possibilité qu'il y ait un contexte explosif d'un pays avec une crise sociale qui continue, qui perdure et éventuellement qui se développe ici et là. Donc est-ce qu'on peut, dans ce contexte-là, prendre le risque de voter au 49-3, c'est-à-dire au forceps, de voter la réforme des retraites, qui provoque en elle-même déjà des oppositions.
La réforme des retraites ne sera pas votée ce dernier trimestre. Ça a été annoncé au dîner.
Au début de l'année prochaine.
Non, ça sera avant la fin de l'hiver. Voilà. Et comment, quel est le truc? On ne l'a pas encore dit.
C'est-à-dire au sortir des fêtes.
Puisque vous mettez sur la place le rôle rôle des Républicains. Je trouve quand même qu'on peut, on voit bien qu'il y a une polémique à l'intérieur des Républicains et que d'une certaine façon incarne un peu Sarkozy, même s'il est éloigné. C'est un, est-ce que ça n'est pas le bon moment pour les Républicains de faire ce qu'ils veulent? Et d'ailleurs, regardez, dans plein d'amendements.
C'est-à-dire,
par exemple, de taxer la part fiscale pour l'ensemble des veuves d'anciens combattants. Il y a plein de les tickets restaurants qui ont été augmentés. C'est-à-dire que le gouvernement laisse tomber parce qu'il a besoin de sa majorité. Donc, est-ce que ce n'est pas le moment pour les Républicains de faire monter les enchères en se disant « ils sont bien obligés de nous suivre ». Alors, ce n'est pas un pacte qui dit son nom, évidemment. C'est une façon d'exister. Tandis que je pense que si les Républicains continuent par moment à voter avec la NUPES et le Front National, moi, je crois que c'est là où ils disparaissent.
Mais moi, je crois
ils
aussi
pourraient
qu'il
faire
faut
entendre
attendre,
leur voix clairement.
Moi, je crois aussi qu'il faut attendre, parce que là aussi, ils ont leur élection. Hein. On va savoir quel sera le nouveau patron du parti. Une fois qu'il y aura un nouveau patron du parti, peut-être qu'il y aura une nouvelle ligne. Je ne sais pas. Est-ce que la ligne, si c'était...
Est-ce
que
c'est Ciotti, c'est pas la même ligne.
Ciotti qui a une ligne qui ne serait pas tout à fait la même que Retailleau. Donc, je veux dire, il y a ça aussi qui joue pour l'instant. Qu'est-ce et donc, pour l'instant, c'est un peu un canard sans tête, parce qu'il n'y a pas de ligne. Voilà.
Qu'est-ce que vous pensez de cette sortie de François Bayrou qui dit un 49-3 précédé d'un travail de fond et de bonne foi, ce n'est pas pareil qu'un 49-3 brutal.
C'est vrai.
Il
a raison.
Oui. D'ailleurs, sûr,
c'est ce que dit Bruno Le Maire lorsqu'il a dit on n'aura pas de 49-3 dès cette semaine, on l'aura la semaine prochaine, éventuellement.
Oui. Allez, une pause et on parle de l'offensive islamiste à l'école. À tout de suite.
Les grandes voix d'Europe 1.
Pierre de Villeneuve.
Un détour par l'école de la République avant de parler de l'Ukraine, puisque le ministre Pape Ndiaye dans Le Monde jeudi dit ceci: pour septembre, on recense 313 faits d'atteinte au principe de laïcité. La laïcité est-elle plus que jamais en péril dans la sphère scolaire, Michel Cotta?
Oui, on peut dire que oui. Alors, même si la loi de 2004, tout le monde dit qu'elle est claire, que les signes extérieurs de religion sont interdits à l'école. En réalité, les chefs d'établissement ont besoin quand même de directives plus claires pour dire « oui, mais alors la burqa, est-ce qu'on peut ?» Donc ça, effectivement, c'est difficile de donner une consigne générale pour des lycées différents. Et il faut bien dire que c'est tout le problème de l'immigration. Bon, il ne peut pas traiter ça... on ne peut pas traiter ça autrement. Le problème, c'est pas moi qui mets des abayas. C'est pas, c'est quand même un signe religieux. Quand on arrive à l'école avec, pas un bandana forcément, hein, parce que ça, je trouve que ça y est, mais quand on arrive à l'école avec un voile noir très loin, c'est un signe religieux. Bon, donc un signe religieux, ça, il faut. Mais maintenant, sur place, les professeurs, ils ont bien d'autres problèmes. Ils ont l'entrée à l'école, ils ont le contenu de leur programme. Parce que ce qu'on sait, c'est qu'ils ne peuvent pas aborder un certain nombre de choses. Ils ne peuvent pas parler de Darwin sans qu'on leur dise « attention, vous touchez à Dieu ». Ils ne peuvent pas parler de religion sans qu'on leur dise « bon ». Et ils ne peuvent pas parler même de la Shoah sans qu'on leur dise « ils ont bien fait ». Bon, donc c'est vrai que c'est ça. Le problème, il est à la fois sur le contenu et si j'ose dire, sur l'apparence. Moi, je trouve qu'effectivement, ça s'aggrave et je ne vois même pas la solution de ne pas aggraver à partir du moment où la population, quand même, augmente.
Gérard Carrérou. Depuis deux ans, depuis la décapitation du professeur Samuel Paty, la situation n'a cessé de se dégrader. Il faut dire les choses, les chiffres d'ailleurs. Même le ministre qui fait semblant, dans un premier temps, il voulait avoir des chiffres. Il attendait les chiffres. Et maintenant, les chiffres. Et les chiffres, ils sont, on voit des augmentations considérables. Sur un seul mois, 313 ruptures avec la doctrine.
Fait d'atteinte au principe de laïcité.
Voilà, dont la moitié concerne effectivement les vêtements de type ou de caractère culturellement islamique. C'est-à-dire les abayas...
Peut-être arrêter de dire religieux, on peut dire islamique.
Disons des vêtements islamiques.
Disons-le. Oui.
On peut attendre d'un ministre, à moins qu'il n'ait pas été nommé pour ça, mais s'il a été nommé pour ça, c'est-à-dire pour refaire des Français, de vrais Français, des Français, s'il a été nommé pour ça, il faut interdire. Cet après-midi, il sera dimanche à la Sorbonne. J'attends de lui une décision courageuse. Par exemple, proclamer clairement, pour que tous les profs sachent ce qu'il doit faire, et les directeurs d'école, les deux lycées, l'interdiction absolue de ces vêtements à caractère qu'on dise culturel ou religieux, je m'en fiche, qu'on les appelle comme on veut, qu'on dise hors de l'école. C'est comme si on avait dit, mais oui, pour le voile est interdit à l'école, mais peut-être que le petit voile... Bon, on a commencé, il y a eu des gens qui ont essayé de ruser avec ça, on leur a dit non, c'est le voile off. En dehors, eh ben, il faut faire la même chose.
Oui, mais ça
si on n'a pas, si pas le courage de le faire, c'est-à-dire si on continue les petits accommodements, eh ben, effectivement, on va dans le mur
si on peut pas
et en klaxonnant en plus.
Et si on ne peut pas faire respecter les interdictions, c'est encore pire.
Non, ce qu'il y a de vrai, c'est que depuis le 27 août, vous vous souvenez du rapport que l'Express avait révélé, notamment qu'il se préparait une véritable offensive d'entrisme dans l'école de la République. Et Pape Diane, le ministre de l'Éducation, est en train de subir cette offensive qui le place dans une position délicate, indéniablement. Il ne voulait pas faire de la question religieuse l'objet central de sa mission. Il voulait l'éviter. Bon, là, il ne peut l'éviter parce que c'est une offensive qui s'accroît de plus en plus. Tout à l'heure, Michel disait que rappelait la loi de 2004. L'objet central de l'offensive, c'est justement de briser cette loi qui refuse les signes ostensibles de toute religion, et notamment de l'islamisme. Car c'est l'islamisme qui conduit l'offensive aujourd'hui, et très net. Et d'ailleurs, l'Express encore vient de révéler il y a moins de 48 heures qu'au lycée Joliot-Curie, il y a une équipe de gamines, de première et de terminale, qui arrive en abaya, qui arrive avec le camis, c'est-à-dire une robe longue jusqu'aux chevilles, et qui veut en réalité forcer l'entrée du lycée. Elles ont été refoulées, elles sont revenues à l'assaut. Donc, c'est vrai qu'il y a un accroissement de cette offensive et qu'il faut maintenant y mettre, et surtout, ça touche celui qui s'occupe notamment en premier chef, j'ose le croire, de cette affaire, le chef de l'État.
Président
Il y a un
Macron.
Problème d'autorité aussi sur le plan régalien, sur le plan de la sécurité, sur le plan de l'immigration, sur le plan de la justice. C'est urgent.
Et non, c'est vrai que la rémunération de 10%, puisqu'on leur propose une nouvelle part de rémunération à 10%, enfin une augmentation de 10%, ça ne résoudra pas les problèmes. Il faut dire les choses comme elles sont.
Pour les enseignants, vous voulez dire.
Pour les enseignants. Oui. Moi, il faut dire quelque chose. Entrer dans une classe aujourd'hui en banlieue, c'est difficile. Et faire un cours d'histoire en banlieue aujourd'hui, c'est difficile.
Et il y a des demandes pour des prières islamiques maintenant à l'école. En disant, il y a des salles toujours dans l'école, il y a des salles vides, il faut pouvoir faire... Est-ce qu'on va céder ?
Alors, il ne faut plus faire de catéchisme
non plus. On a déjà cédé,
plus,
on n'a pas nommé le collège de Conflans du nom de Samuel Paty, alors qu'on avait envisagé de le faire, c'eût été pour la République, un geste fort de nommer ce collège de Conflans d'où était issu ce professeur qui a été tué dans des conditions abominables. Eh bien non, on ne l'a pas fait parce qu'on n'a pas voulu créer, toujours pareil, pas de vague, pas de vague, pas de vague.
Non, parce que le syndicat a été divisé aussi. Parce que le syndicat a été divisé aussi.
Qui a essayé d'imposer une ligne sur cette chose et une conduite. C'était Jean-Michel Blanquer. Oui. Bon, il faut se demander pourquoi il a été viré. D'ailleurs, on l'a laissé tomber. Hein. Mm. Bon, il faut bien dire ce qui est. Et là, on nomme un ministre qui a quand même... je veux dire, il est quand même sans être wokiste. Il a dit des choses sur la race, sur un tas de choses. Bon, et est-ce qu'il est l'homme idoine et quand on le voit, bon, c'est sûrement un intellectuel sympathique, mais... C'est pas, il ne dégage pas, il n'a pas le fluide de l'autorité. Il dit des choses intelligentes, mais disons assez molles. Et d'ailleurs, comment faut-il réagir avec ce qui se passe aujourd'hui? Parce que tout ce qui se passe dans les lycées, il y a un chef d'orchestre derrière. Il y en a peut-être plusieurs. En tous les cas, ce sont des islamistes. Et le problème, d'ailleurs, à l'école aujourd'hui, c'est que les filles qui sont dans les classes, qui viennent avec leur voile, eh bien, leurs compagnes qui sont, qui sont pas musulmanes, elles disent, mais après tout, on s'en fout, nous. C'est ça, la génération aujourd'hui ne comprend pas la laïcité. Elle dit, mais après tout, pourquoi pas, s'ils veulent venir.
C'est vrai.
Voilà. Donc, c'est très difficile.
Il y a un glissement vers le communautarisme anglo-saxon.
Non,
malheureusement, dans la jeunesse, il y a ce glissement.
Ce qui est formidable, c'est qu'au moment où les femmes afghanes et les femmes prennent des risques absolument considérables
pour enlever iraniennes,
enlèvent des risques considérables pour enlever leur voile, on a en France des gens pour qui c'est progressiste de le mettre.
Oui. Une nouvelle pause et on parle de l'Ukraine. À tout de suite.
10h, 11h. Les grandes voix d'Europe 1.
Dernière partie des grandes voix et la question ukrainienne, 234e jour de combat aujourd'hui et deux déclarations ces dernières 24 heures. D'abord Vladimir Poutine qui dit « je n'ai aucune intention de détruire l'Ukraine ». Qu'est-ce que ça serait s'il avait l'intention ? Et Elon Musk qui affirme qu'il n'a plus les moyens de financer l'internet civil ukrainien dont accessoirement se sert l'armée ukrainienne pour le guidage de ses armes, Charles Villeneuve. Ce sont deux déclarations importantes.
Oui, moi je pense d'abord que Vladimir Poutine a compris que militairement, il ne pouvait aboutir à ce qu'il espérait, c'est-à-dire l'écrasement de l'armée ukrainienne. Il découvre que l'armée ukrainienne fait un combat existentiel alors que ses hommes font un combat, se demandent pourquoi ils combattent exactement et dans quelle stratégie. Alors Elon Musk, le milliardaire, qui d'ailleurs se repose sur une fortune à peu près de 200 milliards de dollars, et c'est vrai qu'il a eu une conversation avec Poutine et qu'il a fait, moi je le comprends comme ça, je ne sais si mes camarades l'interprètent de la même manière, comme une concession évidemment à Poutine. Et en même temps il lui a proposé un plan qui est, je trouve, assez subtil et peut-être, en tout cas certainement pas accepté par Zelensky, le président de l'Ukraine. C'est-à-dire, premièrement, l'organisation d'un référendum sous surveillance internationale dans les quatre oblasts, les quatre régions qu'il a annexées. Deuxièmement, la Crimée restera russe.
Bien sûr qu'elle restera russe.
Et c'est irréversible, je pense. Et puis, troisièmement, un engagement de la Crimée, de l'Ukraine à ne pas rejoindre l'OTAN. Bon. Partant de là, ce serait une proposition, un plan, et ils vont certainement en discuter. La semaine prochaine, entre Poutine et entre Erdogan, le russe, qui joue les intermédiaires, qui joue les puissances intermédiaires, à Astana, la capitale du Kazakhstan. Et on a pu remarquer aussi que le président des États-Unis, la semaine dernière, a fait quelques ouvertures. Est-ce que Erdogan sera le petit messager
intermédiaire
de Biden, car il est membre de l'OTAN, il ne faut pas l'oublier, la Turquie.
C'est vrai.
C'est peut-être possible.
Mais qui n'accepte pas les sanctions.
Vous avez parlé de deux déclarations importantes, je n'y reviens pas, celle de Poutine d'un côté qui joue un peu calmos. On a l'impression que tout d'un coup, il devient fréquentable. Et puis deuxièmement, celle de Musk, bon, tu en as parlé. Moi, je noterai, parce que vous savez que je tâche beaucoup d'importance aux déclarations du président de la République, je noterai aussi la déclaration du président de la République sur ce sujet. Il a dans son intervention, qui a quand même fait 5 millions de téléspectateurs, ce qui n'est pas mal pour une intervention comme ça, il a quand même dit trois choses importantes qui montrent qu'il revient légèrement, en tout cas, sur il infléchit sa ligne. Il n'est pas dans le camp des braillards jusqu'au boutiste, comme Madame Ursula, que je ne cesserai de dénoncer. Il a dit trois choses. On ne fait pas la guerre à la Russie, il l'a redit clairement. La Russie n'est pas un État terroriste. Alors, ces gens-là profèrent que la Russie, c'est un État terroriste, rien à voir avec l'État terroriste. Et troisièmement, il n'y a pas de rien à voir avec Poutine. Or, vous savez que Zelensky et ses turiféraires, c'est attention, on ne peut pas parler avec Poutine, c'est fini, etc. Donc, sur ces trois points, Macron a une ligne plus mesurée, j'en suis ravi.
Mais c'est un peu emmêlé les pinceaux sur la dissuasion, quand même.
Son intervention est incompréhensible, puisque le propre de la dissuasion, c'est de jamais lever l'incertitude de l'emploi. Or, il a répondu à une question
de Caroline Roux.
De Caroline Roux, très clairement, s'il frappe sur le plan du nucléaire tactique l'Ukraine, je ne répondrai pas. Ça m'a renversé.
C'est drôle. Mais alors,
Michel Cotard,
en restant aux trois propositions, de Macron, effectivement, on a l'impression qu'il revient à ce qu'il disait au début, il faut une porte de sortie. Or ça, maintenant, tout le monde en est convaincu. Tout le monde en est convaincu qu'il faut une porte de sortie. Et que par conséquent, la porte de sortie, elle ne peut être qu'autour de l'Ukraine. Mais les seuls qui n'en sont pas persuadés, c'est Zelensky. Et de ce point de vue-là, je trouve qu'il y a quand même une espèce de valorisation de Zelensky, qui maintenant est une vedette mondiale, qui existe parce qu'il résiste. Moyennant quoi, sans porte de sortie, on n'arrivera à rien. Et c'est nous qui souffrons en premier. Donc les Européens ont tout intérêt à ce qu'il y ait une porte de sortie, parce que sinon, on se prend les sanctions dans la figure.
Juste une remarque.
Oui, parce qu'après, il faut qu'on rende l'antenne.
Il ne peut avoir cette attitude-là, pour l'instant. si Biden décide qu'il y a une porte de sortie, c'est les États-Unis qui supportent et qui alimentent en permanence tous les jours d'armes extrêmement sophistiquées l'Ukraine. Il acceptera la porte de sortie.
Oui. Catherine, le mot de la fin.
Mais aujourd'hui, tout le monde sait que l'Ukraine restera russe, parce qu'elle était ukrainienne.
Non, non. La Crimée restera russe.
Le fait d'organiser un référendum dans les réunions du Donbass sous le contrôle international, mais je veux dire, des gens comme Nicolas Sarkozy pensent exactement la même chose. Donc il y a quand même cette idée qu'il faut en sortir et qu'il faut un plan. C'est quand même une idée qui démarre. Et moi, je pense, vous avez vu Poutine, là, qui a fait une conférence de presse. Moi, je ne l'ai jamais vu autant en forme.
Aussi charmant.
Oui. On a vu qu'il s'est mis un peu coloré ses cheveux. Je veux dire, oui, c'est... Non, mais il était très en forme.
On a envie de déjeuner avec
lui. Avec lui. Il dit que tout va bien, tout se passe bien, la Russie agit comme il faut.
Je vais vous laisser parce que c'est l'heure du chachlik et Gérard va déjeuner avec Poutine. C'est l'heure de retrouver Laurent Marion. Bonne semaine à tous.
Pas le chachlik.